Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Lemel, on arrive à un nouveau passage de la Torah que nous étudions dans nos communautés et c'est le fameux épisode de Balak, qui s'appelle Balak d'ailleurs, et de Bilam, avec des histoires très fameuses, bénédiction, malédiction. Et vous, ce qui vous interpelle aujourd'hui, c'est la terrible solitude du peuple juif. En fait, vous voulez réfléchir avec nous sur ça, la solitude du peuple juif.
Exact. C'est vrai qu'on la vit actuellement très fortement, mais en point de départ, on va s'arrêter un petit peu justement sur qui nous parle de cette solitude. Celui qui va nous en parler, eh bien, c'est justement Bilam. Bilam, ce prophète des nations, celui qui veut maudire, celui qui n'arrivera pas à maudire, et qui va dans tout le texte de la paracha, eh bien, nous parler de nous. Il va nous parler de ce que nous sommes, de nos forces, de nos enjeux. Il va parler aussi des autres nations du monde. Et à un moment, il va dire la chose suivante, « En am le vada dishkon ou bagoim le itrashav ». Alors, la première lecture, « En am le voici ce peuple, le vada. Dans sa solitude, dishkon, il est installé ou bagoim le itrashav et parmi les nations, le itrashav. Il n'a pas d'importance. » Alors, évidemment, on va d'abord peut-être mettre d'autres virgules. Vous savez que dans le Sefer Torah, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point. Il y a des ruptures de temps à autre, mais quand vous voyez le texte, vous pouvez mettre les virgules là où vous voulez. Et on peut avoir d'autres lectures. Et la lecture, elle pourrait être aussi celle-là. Hen am levadad, virgule, yishkon, uba goyim lo, virgule, yitrashav. Traduction différente. En am levadad, voici que ce peuple levadad dans sa solitude, virgule, yishkon. C'est ça qui lui permettra de s'installer sur la scène de l'histoire. Uba goyim lo. Et lorsqu'il ne désire pas être à l'image des peuples, yitrashav, c'est là où véritablement il va prendre son importance. Et on a ici une lecture radicalement autre. Et on va essayer de la reprendre dans quelques instants, mais d'abord commencer justement avec ce point de départ. En am le vadad ishkon ou bagoim le itrashav. Qu'est-ce que Bilam est en train de nous dire? Bilam nous rappelle au fond, ce que sera l'histoire du peuple d'Israël, c'est-à-dire d'un peuple qui en effet sera vadad. Vadad, c'est ça à propos du metzora. Le metzora, c'est celui qui est sorti du camp. Vous savez, celui qui a dit du Lashon Hara, celui qui a fait de la médisance, et à propos de lui, on dira « Badad Yeshev, Mirchutz Lamachane », il doit rester seul, solitaire à l'extérieur du camp. La notion de Bedidout, cette notion de solitude, le fait que, on est à l'extérieur. Et en effet, le peuple d'Israël, dit Bilam, il est le Vadad. Seulement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait que lorsque Bilam parle, il nous bénit. Puisque le texte nous dit qu'il va entre autres proclamer Matobo Alecha Yaakov, que son bel t'étant de Jacob, tes sanctuaires d'Israël. Donc, au fond, il est en train de parler de quoi? Il sait bien de quelque chose de très positif, de quelque chose en effet dont on doit être capable de réaliser que c'est notre force. Car en effet, savoir être seul, c'est être suffisamment construit pour ne pas avoir besoin des autres. Et on va s'arrêter sur le premier mot qu'il utilise, « Hen am », le voici ce peuple. Si en effet on avait voulu dire les choses différemment, on aurait pu dire « Amze », ce peuple-là. Or le terme de « Hen », le voici, est un peu curieux et la question est de savoir mais pourquoi c'est ce terme que la Torah utilise. Et vous allez constater quelque chose de très intéressant, c'est que « Hen », le voici, c'est un mot qui est constitué de deux lettres. La lettre « He » valeur numérique 5, Noun, valeur numérique 50. Alors, ce n'est pas bien sûr pour faire un clin d'œil au 55, non, pas du tout. La lettre He et la lettre Noun, dit le Maharal de Prague, sont les lettres de la solitude. Pourquoi ? Vous savez que l'alphabet hébraïque est décomposé en deux grandes parties, les lettres qui ont une valeur numérique unitaire, les unités, et puis celles qui ont les valeurs numériques des dizaines. La lettre Aleph vaut 1, la lettre Bet vaut 2, Gimel 3, et puis après on arrive à la lettre Tet qui vaut 9, et puis après on arrive à la lettre Yud, 10, et puis après Yud, Kaf, Lamed, 10, 20, 30, 40. Et le Maharal nous dit, mais au fond, constatez que quand vous associez les lettres, vous avez toujours 10 ou 100. La lettre Aleph que vous associez à la lettre Tet, qui vaut 9 et 1, ça fait 10. La lettre Bet à la lettre Ret, 2 et 8, ça nous fait 10. Mais c'est qui cette lettre qui va rester seule ? Eh bien, c'est très simple, c'est la lettre qui est au centre. C'est la lettre He, qui vaut 5, celle-là est toute seule. 1, 9, 2, 8, 3, 7, 6, 4. Eh bien, la lettre 5 est seule. Idem, évidemment, au niveau des dizaines. La lettre Yud avec la lettre Sadeh, etc. La lettre au centre, c'est la lettre Noun qui vaut 50. Le terme Hen, qui veut dire le voici, est constitué de deux lettres qui sont totalement seules. Pourquoi ? Eh bien, dit le Maharal, parce que tout simplement, la solitude d'Israël, c'est de ne pas avoir besoin des autres pour être validé par eux. Et ça, au fond, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que cette solitude d'Israël, eh bien, est révélatrice du fait que Israël ne demande pas à être validé parmi les nations. Israël n'a pas besoin que les autres lui disent bravo pour savoir qu'il est là où il doit être. Et ça, en effet, c'est cette première dimension. Hen am levadad ishkon. Voici que ce peuple, dans cette solitude à l'extérieur, en effet, et parfois on va aller faire un petit détour par l'actualité des instances internationales. Eh bien, Yishkon, il est Shochen, il est installé, mais Shochen, c'est Shrina, c'est la présence divine aussi, parce que tout simplement, le peuple d'Israël est validé par le Créateur de l'univers. Et Bagoyim lo yitrashav, parmi les nations lo yitrashav, il n'est pas celui à qui on donne de l'importance, traduit de manière différente. Le peuple d'Israël ne va pas chercher parmi les nations une chashivut, une importance. Ce ne sont pas les nations qui sont autour du peuple juif qui sont là pour dire « Vous savez, vous êtes des gens bien. Vous avez sans arrêt besoin de demander aux autres si vraiment on est quelqu'un de bien, c'est qu'on n'a pas conscience véritablement de ce que l'on est. » Ce n'est pas ici du tout un déni des nations, ce n'est pas du tout un rejet, ce n'est pas cette solitude dans laquelle on a envie de s'enfermer qui serait au fond la mise à l'écart des autres, pas du tout. C'est tout simplement rappeler à l'histoire que lorsqu'un peuple sait où il en est, lorsqu'un peuple a conscience de sa valeur, lorsqu'un peuple connaît sa mission et veut jouer son rôle, eh bien, il ne demande pas sans arrêt d'être validé, parce que quand vous avez besoin d'être validé par les autres, eh bien, au bout d'un moment, vous perdez votre identité, parce que l'autre va créer ce que j'appellerais une validation conditionnelle, parce que c'est seulement si on va sacrifier à ce que l'autre nous demande d'être que il va nous dire que nous avons une place. Et au fond, c'est le début de la fin, j'ai presque envie de dire, de l'identité réelle. Et puis, cette seconde lecture, Levada d'Ishkon. Lorsque nous acceptons justement cela, lorsque nous ne sommes pas à la recherche, comme malheureusement certains hommes politiques peuvent l'être, et parfois même parmi notre peuple, d'être sans arrêt adoubé parmi les nations, eh bien, Ishkon, c'est là où véritablement on est installé clairement. Parce que on a créé une histoire qui nous appartient. Ubagoyim lo yitrashav. Et au fond, vous savez très bien que vous prenez de l'importance parmi les nations lorsque justement vous leur montrez que vous êtes suffisamment clair sur ce que vous êtes, lorsque vous leur montrez que vous avez suffisamment confiance dans votre histoire passée qui va être à l'origine de votre histoire future, lorsque vous montrez que vos racines sont suffisamment solides pour ne pas avoir besoin sans arrêt de les revisiter, à ce moment-là, véritablement, vous devenez point de référence. À ce moment-là, véritablement, vous avez votre place. Et donc, c'est ce que Bilam, le prophète des nations, va nous dire. Et vous savez que nos textes disent, le Talmud nous dit qu'à la base, nous aurions dû prononcer toutes les paroles de Bilham tous les jours. Oui, en effet. Ce texte dans lequel Bilham nous rappelle qui nous sommes, en disant entre autres Matovu Alecha Yaakov Mishkenotecha Israël, que sont belles tes tentes Jacob, tes sanctuaires d'Israël, c'est-à-dire d'un Bilham qui nous dit, mais rappelez-vous que votre force, de manière ultime, elle se situe dans quoi? Elle se situe dans vos familles, dans vos sanctuaires qui sont Batei Knessiot ou Batei Midrashot, les lieux de l'étude, les lieux dans lesquels vous puisez votre force spirituelle. Eh bien, on devrait le dire tous les jours. Pourquoi? Pour bien s'en rappeler. Pour l'inscrire en profondeur à l'intérieur de nous. Et vous savez, la seule raison pour laquelle on ne dit pas tous les jours, elle est très simple, c'est parce que c'est trop long. Et que ça rajouterait encore et encore à la prière. Et donc, c'est beaucoup plus pour avoir une prière qui ne soit pas trop longue qu'on ne le dit pas. Mais si ce n'était cela, eh bien, en effet, on devrait le dire tous les jours. Vous imaginez un petit peu cette prière qui tous les jours serait agrémenté de ce souvenir et de ce rappel de ce que nous sommes. Eh bien, le fait de savoir que si ce n'était la longueur de ce texte, nous devrions le dire tous les jours, est là pour nous en rappeler l'importance et la valeur fondamentale. Voilà un petit peu ce que Bilham nous dit. Voilà un petit peu ce que nous devons nous rappeler. Et puis, bien sûr, rajouter ce fameux Matovu Alecha Yaakov Mishkenotecha Israël qui est inscrit au foncipice de toutes les synagogues. Vous savez, c'est quand même curieux de réaliser que, eh bien, ce qu'on met devant toutes les synagogues, c'est pas les paroles de Moïse, hein? On aurait pu imaginer quand même, Moshe va dire des choses pas mal, quoi. Eh bien non, c'est pas ça qu'on va mettre. On va mettre ce texte de Bilham, de celui qui va s'opposer à nous. Pourquoi? Parce que l'on sait que justement, à ces moments-là, il a vu réellement qui nous étions. À ce moment-là, il nous a rappelé quelle était notre particularité. Parce que tout simplement, ce n'était plus lui qui parlait. Il n'était que le vecteur d'une parole divine. Et au fond, ces mots-là, c'est Dieu qui nous les adresse à travers l'entremise de Bilham. Sachons-nous non seulement nous en rappeler, mais les faire exister de manière ultra concrète dans notre quotidien.
Je me souviens un jour, Rav Rosenberg nous disait, mais quand vous lisez quelque chose de nouveau dans la prière, par exemple, que vous lisez de nouveau le samedi, vous vous dites, bah, c'est plus important parce que c'est nouveau. Et en vous écoutant, je pensais à ça. Parce qu'il disait, non, ce qui est le plus important, c'est ce que vous devez lire tous les jours. Donc souvenez-vous-en. C'est quand vous arrivez à ce que vous lisez tous les jours que c'est ça, concentrez-vous sur ça, par exemple, les brachot du Shema, etc. Mais oui, elles sont bien belles, nos maisons. Grâce à Dieu, on a cette chance. C'est peut-être même pour ça qu'on nous déteste tellement. On se demande toujours qu'est-ce qu'il y a derrière le mur des Juifs. Rav Elie Lemel, merci pour ces très belles paroles. Et je vous souhaite Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Rav Mordechai Biton, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom à toutes et à tous. Alors,
Rav Mordechai, vous voulez nous entretenir ce soir sur un fait étonnant qu'ont noté les Chachamim, c'est que finalement, Bilham, il n'y a pas de libre arbitre. Un homme, pas de libre arbitre. Il voudrait maudire, il bénit, c'est totalement le jouet de la Providence.
Il y a un fait dans la paracha de Balak. La paracha de Balak nous raconte l'histoire d'un roi qui fait appel à un prophète, Bilham, qui va essayer de maudire le peuple juif. La suite de l'histoire est connue. Bilham va finalement réciter les plus grandes bénédictions qui n'aient jamais été récitées dans toute l'histoire du peuple juif. Ces bénédictions sont même plus grandes que celles que Yaakov a accordées à ses fils. Quand Yaakov accorde des bénédictions à ses fils, eh bien, il leur a fait des reproches. Il a fait des reproches à Réhouven, à Shimon, à Lévi. Là, ici, ce sont des bénédictions absolues et totales qui racontent la grandeur, la beauté du peuple juif et la bénédiction qui accompagne le peuple juif. Et la question qui se pose ici, finalement, pourquoi, à un moment donné, Dieu retire à Bilham son libre arbitre et l'oblige à faire une chose qu'au fond, il n'a pas envie de faire? Bilham se retrouve contraint, malgré lui, à proférer des bénédictions. Il est en quelque sorte privé de son libre arbitre. Alors, il n'est pas le premier dans l'histoire de l'humanité à être privé de son libre arbitre. Par exemple, Pharaon. Pharaon, lors des 5 dernières plaies d'Égypte, il aimerait bien s'arrêter, mais il ne peut pas s'arrêter. Hachem lui dit, tu as voulu détruire, ben tu es prisonnier de ton esprit de destruction. Léavdil ben Atamé et Ataor, en faisant bien la différence entre ce qui est impur et pur, Yitzhak, par exemple, voulait donner les bénédictions à Esav. Et lorsqu'il apprend que finalement il les a données à Yaakov, Hachem le contraint en quelque sorte, c'est-à-dire Gambaruchie a confirmé donc ces bénédictions qu'il a récitées pour Yaakov. On voit donc au long de l'histoire que parfois un individu est privé d'une certaine manière de son libre arbitre. Quelle en est la raison profonde ? Bien, la réponse, mes chers amis, est la suivante. Il y a le destin individuel de chacun d'entre nous, il y a le destin du peuple juif et il y a la marche de l'histoire. Dieu a un programme. Dieu a un programme qui part de Adam Arishon, du premier homme, et qui aboutit à l'avènement messianique. Dieu a un programme dans lequel le peuple juif doit recevoir la Torah, transporter la Torah dans le temps et dans l'histoire, et incarner cette Torah. Pour que cela se fasse, il faut que le peuple juif existe. Or, à partir du moment où Balak se lève et dit « Je veux exterminer le peuple juif », je ne peux pas le faire militairement parce que j'ai vu, comme la Torah nous l'a raconté, qu'il est protégé par son Dieu et qu'il a remporté des victoires militaires très surprenantes et très spectaculaires, suivez mon regard, face à des rois qui étaient des rois géants. Et il a réussi à gagner, donc je ne peux l'attaquer que par la bouche. Et donc je vais trouver quelqu'un qui a la force dans la bouche, la force de la malédiction, donc il va chercher Bilam. Lorsque quelqu'un se lève pour exterminer le peuple juif, il faut qu'il le sache. Il n'a pas seulement affaire avec le peuple juif, il a affaire avec Dieu lui-même, pour trois raisons. La première, c'est que Dieu dit « tu veux t'attaquer à mes enfants, c'est ceux qui me représentent sur terre, donc tu t'attaques à moi ». La deuxième, c'est qu'ils doivent être présents, ça fait partie de l'histoire. Et la troisième, c'est que ça fait partie de la marche de l'histoire vers le dénouement messianique. Donc tu veux interférer dans l'histoire du dénouement messianique, dans l'histoire de l'humanité, et même faire disparaître le peuple juif dans l'histoire du peuple juif, c'est à moi que tu as affaire. Et c'est la première réponse qu'on puisse donner à cette question. Pourquoi cet homme-là est privé de libre arbitre et se retrouve, en quelque sorte, à être le jouet d'Hachem, on dirait de manière plus laïque, le jouet de l'histoire. La réponse est la suivante. Cet homme a voulu entraver l'histoire. Bilam et Balak ont voulu entraver l'histoire. Et ça va un petit peu plus loin. Parce que le Midrash nous raconte qu'ils sont venus Dieu, ils sont venus voir Dieu, je le dis de manière romanesque, mais c'est un petit peu ça dont il s'agit, et ils ont proposé un deal. Ils ont proposé un deal. Ils ont dit, pourquoi tu veux être servi par un seul peuple? Nous, on représente 70 peuples. Bilam va dire à Hachem, moi je représente 70 peuples. Hachem lui dit, non, pas du tout, tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas parce que vous tous là-bas, vous êtes divisés, vous êtes dans la haine des 70 nations du monde. Au fond, finalement, vous n'êtes pas unis. Et le peuple juif reflète l'unité divine. Il est uni de manière très profonde. En apparence, il peut s'opposer. En apparence, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des marloquettes, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des disputes. Mais au fond, il y a une âme collective, il y a une unité intrinsèque du peuple juif qui est indéniable et indestructible. Donc ce deal que tu me proposes ne m'intéresse pas. Moi, je suis le un, le Dieu un, et j'ai besoin d'un peuple qui reflète cette unité. J'ai besoin de gens qui reflètent cette unité. Ça n'est pas ton cas. Et donc, voilà que cet homme qui a voulu entraver l'histoire, eh bien, il s'est fait balayer. Et d'une manière générale, il y a là un point qui nous intéresse du point de vue de l'actualité du peuple juif. Depuis l'histoire de Pourim, 400 ans avant notre ère, où s'est levé un homme, Aman, en Perse, encore les mêmes, qui a voulu détruire le peuple juif et interférer avec le dessein divin dans l'histoire, jusqu'aux Perses d'aujourd'hui, qui rêvent de se débarrasser de la moitié du peuple juif et qui propagent une idéologie génocidaire à l'égard du peuple juif. Il faut savoir, et c'est une donnée de émouna, de foi tout à fait fondamentale, ces gens-là sont les éternels futurs perdants, pour une raison qui est très simple. Dieu a un autre projet. Il a un monde dans lequel il y a un peuple juif. Il y a un monde dans lequel il y a la Torah. Il y a un monde dans lequel il y a un dénouement messianique. Et donc ces gens-là, d'une certaine manière, vont interférer. Et il faut savoir que si la France laïque n'est pas capable de le comprendre, là-bas en Iran, au Hamas et dans les groupes djihadistes, on sait très bien pourquoi on se bat. On sait très très bien pourquoi on se bat. On se bat parce qu'on veut affirmer la suprématie de l'islam et de son projet messianique sur le judaïsme, sur le peuple juif et sur le projet messianique du peuple juif. Et ce sont des choses qui sont dites et redites très souvent par des dignitaires musulmans, des chefs djihadistes et des responsables iraniens. Donc il y a ici un secret de l'histoire en quelque sorte, et ce secret de l'histoire se révèle ici dans l'histoire de Balak et Bilam. Il faut aussi rappeler que Balak et Bilam, quand on voit les lettres, on trouve le mot Amalek dedans et Bavel. C'est-à-dire qu'ils incarnaient tous les deux à la fois Bavel et Amalek. Pourquoi Bavel ? Parce que Bavel est appelé Reshit Mamlakhto. C'est après le principe premier des royautés dans le monde, c'est le premier empire. Et Amalek, parce qu'il l'appelait Réchit Goyim, il incarne un principe premier dans la haine vis-à-vis d'Israël, qui est une haine totale, absolue, inextinguible, radicale, qui ne connaît aucune espèce de limite. Et en fait, Balak et Bilam incarnaient ça, ce désir d'être ceux qui incarnaient le principe premier de la royauté des hommes contre Dieu, et le deuxième principe qui est d'affirmer le principe premier de la haine d'Israël et de la destruction et la disparition d'Israël, qui est le rêve de tous les ennemis de Dieu et de tous les ennemis du peuple juif. Ça n'a pas marché, et ça ne marchera jamais. Ce peuple juif était à sa place. Et pourquoi ça n'a pas marché, entre autres? Parce que le peuple juif, à ce moment-là, était à sa place. Et rappelez-vous bien la fin de la paracha. Bilam va dire, tu sais, on ne peut pas les avoir comme ça. Mais il y a une chose par laquelle on peut les avoir, c'est la débauche. Effectivement, la fin de la paracha se termine sur un récit de débauche. Et c'est effectivement, ce qui est un outil de destruction du peuple juif, la débauche. Mais s'il y a une chose sur laquelle chacun peut réfléchir aujourd'hui, à l'occasion de la paracha de Bilam, c'est quel est son degré d'ancrage dans ce qu'on appelle la sainteté d'Israël. Ce n'est pas celle de Baba Salé, ce n'est pas celle des grands personnages, la sainteté normale, classique. Préserver son couple, préserver ses yeux, préserver sa pudeur, éduquer ses enfants dans la pudeur, et ne pas afficher quand on va au resto et quand on se promène à la plage des photos sur Instagram. Voilà. Sachons garder une certaine pudeur à réfléchir.
Rav Mordechai Biton à Jérusalem, merci à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Gay, alors vous voulez intervenir sur la fin de notre paracha, et donc c'est le début de l'histoire de Pinchas, qui donnera son nom à la paracha suivante. On commence à l'expliquer dès maintenant. Et alors Pinchas fait un acte incroyable, il tue un homme devant tout le monde, dans un endroit extraordinairement sacré, et tout le monde dit c'est bien, j'allais le tuer. Alors évidemment on a beaucoup de mal à comprendre, parce que je pense que c'est quand même l'un des maximums interdits de tuer quelqu'un. Mais lui, oui, il peut, pas de jugement, tac, il tue quelqu'un et tout le monde dit bravo. Alors pourquoi ?
Oui, alors tout à fait, il faut bien expliquer que l'acte de Pinchas d'abord était très critiqué. Ses contemporains, ceux qui ont assisté à cet acte, sont allés dire que tout simplement Pinchas était le petit-fils de Yitro qui était un idolâtre patenté au départ avant de faire Tshuva, et que tout simplement en tant que descendant de Yitro, il était tout simplement jaloux, mais jaloux pas dans le sens positif, dans le jaloux parce qu'il aurait voulu lui aussi aller avec les filles de Midian, ou lui aussi se prosterner à, ou de faire l'acte d'allégeance à la Avodah Zarah, l'idolâtrie de Baal Peor. Et en fait, il est tellement jaloux qu'il va tuer celui qui ose faire ce que lui-même n'ose pas faire. En fait, c'est assez psychologiquement intéressant à évaluer. On peut avoir une telle jalousie, un sentiment de jalousie envers celui qui fait ce qu'on aimerait faire mais qu'on n'ose pas faire, puisque Pinchas, c'est le petit-fils d'Aaron, il ne peut pas se permettre ce genre de choses. Mais quelque part, le prince de Shimon qui se permet de faire cela, ben, ça le touche, il se sent extrêmement jaloux, et donc il aurait fait ça par jalousie, donc des instincts très bas, très quelconques, et donc c'est l'accusation dont il est l'objet. Et à ce moment-là, Dieu est obligé de réagir en disant non, cet acte-là est un acte de shalom, un acte de complet, un acte qui est totalement fait de façon désintéressée. Il est fait parce qu'il a ressenti combien le nom de Dieu était profané, et il a voulu donner une leçon, même à ce prince de Sivan, en prenant d'énormes risques. Et le premier risque, c'est justement d'être mal jugé. Et moi, Hachem, je viens vous dire que cet acte est un acte de shalom, alors c'est un acte violent, c'est un acte de shalom parce qu'il est motivé uniquement pour des raisons et des motivations très élevées, très spirituelles. Il a pris d'énormes risques et il a réussi son acte. Alors ça, c'est effectivement un sujet très intéressant. Pourquoi est-ce que Pinchas, cette canao de Pinchas est-elle acceptée, agréée? Alors, parce que Kano Kinetil Hachem, on dit que Pinchas et Eliyahu, c'est soit le même personnage, soit une réincarnation. Eliyahu sur une réincarnation de Pinchas. Et on sait que Eliyahu, il a une phrase Kano Kinetil Hachem. Il est très jaloux pour Hachem. Alors c'est quoi être jaloux pour Hachem? On va bien expliquer. Lorsque les Juifs font l'idolâtrie, pratiquent l'idolâtrie, Dieu, entre guillemets, est jaloux, comme un homme serait jaloux si sa femme va flirter avec un autre homme. Dieu dit, voilà, vous m'appartenez à moi, il n'y a pas de raison que vous alliez servir d'autres idoles, d'autres dieux. Et donc, c'est une forme de jalousie pour Hachem, c'est-à-dire que je ressens l'affront qui est fait à mon Hachem que j'adore, et qui, son nom est bafoué, puisqu'on va vers d'autres divinités, d'autres croyances. Et donc, je ressens une sorte de souffrance de voir le nom d'Hachem bafoué, et c'est pour cela que je réagis avec autant de force et de fougue. Chez Eliaou, on sait qu'il a organisé au Mont Carmel une grande cérémonie où il y avait les prêtres de l'idole Baal et de notre côté lui, et qu'il a fait un challenge, lancé une sorte de défi en disant celui qui aura le mérite de voir du feu descendre du ciel pour brûler le sacrifice qu'il aura porté sur l'autel, ça veut dire qu'il a un dieu vrai, vivant, etc. Évidemment, Eliaou a répondu, le feu descend du ciel, alors que pour les prêtres de Baal, il n'y a absolument rien qui se passe, et ils sont finalement égorgés après cet événement. Et une grande victoire pour Eliaou et pour ceux, pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu, qui finalement a réglé le compte de tous ceux qui, évidemment, ont profané son nom en allant vers l'idolâtrie. Donc ici, il y a une notion de kanaout, c'est-à-dire de volonté, de zélote, etc., de défendre le nom de Dieu devant des gens qui le profanent. Alors, il faut faire très attention, parce qu'évidemment, ça peut donner lieu à des dérives extrêmement dangereuses de gens qui pourraient se targuer d'être les justiciers de Dieu, des zélotes. Et là, le Rav Lévi nous a dit plusieurs fois qu'aujourd'hui, ce n'était plus notre niveau et que nous étions très loin d'être à ce niveau-là. Donc, il ne faudra surtout pas utiliser la violence pour faire adopter la religion ou la défendre. Aujourd'hui, l'approche est évidemment celle de Aaron HaKohen, l'amour de l'autre, le shalom, la paix, donner envie aux autres de se rapprocher de la religion en faisant exactement tout le contraire de ce que fait le Hamas, qui utilise la violence pour défendre soi-disant Allah, leur Dieu, qui est un Dieu unique, effectivement, mais qui est défendu par des terribles atrocités. C'est donc pas du tout ce que le judaïsme nous demande et nous permet de faire. Là, ici, il s'agit d'un être exceptionnel, dans une situation exceptionnelle, avec une aide divine particulière. Bref, une personnalité hors norme, qui fait quelque chose qui est hors norme et qui ne peut pas absolument pas être dupliqué. Simplement, la seule chose que nous devons apprendre de Pinchas, c'est cette capacité de prendre la cause de Dieu comme étant la nôtre, c'est-à-dire de souffrir et de penser que nous voulons tous que le nom de Dieu soit sanctifié, que son nom soit défendu. Après, comment l'obtenir? C'est en donnant envie aux gens de se rapprocher d'Hachem, et c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui, puisque de nombreux de nos frères qui n'étaient moins pratiquants le deviennent plus suite aux événements que nous vivons depuis quelques mois, voire même presque 2 ans. Et donc il y a effectivement un réveil, mais absolument pas sous la forme d'une canao, d'une violence quelconque. Non, Pinchas c'était tellement, le Shem Shamaï est tellement désintéressé et tellement dans le but de l'amour d'Hachem, etc., qu'il a eu droit à la kehuna, la prêtrise, qu'il n'avait pas eu à sa naissance, et qu'il aura par le mérite d'un acte parfait qu'il va réaliser, et qui va lui donner droit à cette kehuna, cette prêtrise, qui nécessite le shalom, c'est-à-dire une grande plénitude, un grand amour et une grande proximité avec le peuple juif, et une volonté de défendre le peuple juif. Et c'était aussi la motivation de Pinchas. En voyant cette terrible épidémie, il s'est dit, il faut que je sauve mon peuple, il faut que je réagisse. Et donc il a stoppé cette magéfa, cette plaie terrible, cette épidémie terrible, en défendant l'honneur d'Hachem et aussi en protégeant les Juifs, parce que vu cet acte héroïque, Hachem a arrêté totalement sa colère, s'est calmée, et les Juifs ont été donc préservés. Il y a eu quand même 24 000 victimes. C'est énorme, et d'après certains, beaucoup plus. Et donc ça a été une des grandes catastrophes de l'histoire juive. Je rappelle que c'était le conseil de Bilam. Bilam qui, avec une vue bouche perfide, n'avait pas réussi à maudire le peuple juif. Et bien il s'est dit, bon, je n'arrive pas à les maudire, je vais les faire fauter. Et lorsqu'ils fautent, Dieu les abandonne et ils auront une sanction terrible. Et c'était malheureusement passé. Tout ça, c'était parce que Bilam avait donc cette perfidie. Il avait surtout compris qu'après des semaines où Dieu ne se mettait pas en colère, puisque Dieu, pendant cette période, n'a pas voulu se mettre en colère pour ne pas donner l'occasion à Bilam de maudire le peuple juif, eh bien le monde était dans une carence de dîme, de rigueur, puisque nous, sans le savoir, nous sentons et nous avons peur de cette colère divine, même si nous ne la voyons pas. Et nous la sentons et nous, ça nous oblige à nous retenir dans certains domaines sans, de façon inconsciente. Lorsque, pour ces raisons-là, Dieu ne s'est pas mis en colère pendant toute cette période, eh bien, quelque part, on a ressenti un relâchement, entre guillemets, et donc une capacité à agir que nous n'avons pas en temps normal, et donc ça nous a laissé, un petit peu victimes de cette terrible machination de Bilam avec ces femmes de Midian et de Moab qui nous ont créé énormément de soucis. Mais tout ça, c'est Bilam qui a été l'instigateur. D'ailleurs, il va le payer très cher puisqu'il va mourir dans la paracha de Matot. Il sera mis à mort par Pinchas, justement, qui va terminer le travail en allant mener la guerre contre Midian et tuer Bilam qui s'y trouvait à ce moment-là. Donc, tout ça pour nous rappeler l'importance, effectivement, d'être proche et ressentir la colère de Dieu, mais en même temps, de savoir aujourd'hui, tout en ressentant cette colère de Dieu, être capable de réagir avec intelligence et avec en même temps mesure, mais avec cet amour d'Hachem que nous devons ressentir. Et nous devons tous se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que de plus en plus de Juifs adhèrent au message d'Hachem, qu'ils adhèrent sans être obligés de le faire, mais simplement par adhésion, par amour. Et c'est la meilleure façon de suivre l'exemple de Pinchas. Pinchas, c'est dans la violence, mais nous, c'est dans la paix. Et c'est tout à fait compatible, puisque Pinchas, ce n'était pas un acte de guerre, c'était un acte d'amour pour Dieu et d'une colère contre celui qui contrevenait à cette volonté de Dieu. Voilà un petit peu le message que je voulais partager avec vous, et que Dieu a dû lui-même défendre Pinchas, sinon on l'aurait accusé de faire un acte de guerre, un acte d'assassinat, et il aurait été effectivement lynché par ses contemporains qui ne voyaient pas les choses comme je la présente maintenant. Maintenant, évidemment, c'est Dieu qui va dans les cœurs et qui sait les motivations, et donc c'est pour nous dire que nous, aujourd'hui, je rappelle, nous n'avons plus cette dimension et nous n'avons plus à agir de la sorte, mais nous devons toujours ressentir cet affront fait à Dieu et donc essayer par tous les moyens de faire en sorte que Dieu, le nom de Dieu soit connu, reconnu par le monde entier et de la façon la plus douce et la plus, on va dire, consensuelle possible, de manière à donner envie à tout le monde de rejoindre cette grande légion de gens croyants et en même temps des gens de shalom, de paix et d'ouverture.
Mais puisque vous nous invitez à partager, Rav, je voudrais peut-être dire quelque chose et vous interpeller à votre tour. Moi, je crois que quelque part, par des petits actes, hein, pas aussi énormes, d'ailleurs, on le souhaite à personne aussi énorme, mais par des petits actes, moi, je crois qu'on est tous capables, une fois dans sa vie, plusieurs fois dans sa vie, d'agir comme Pinchas. Des fois, vraiment, on est sûr que c'est pas pour nous qu'on le fait. On le sait. Et pas seulement parce que c'est ses enfants. Je suis sûr que toute personne qui nous écoute ce soir, à un moment de sa vie, c'est sûr que c'était pas pour lui qu'il l'a fait. Et donc, d'après ce que je comprends, la raison pour laquelle Pinchas a été pardonné, c'est que c'était pas pour lui. Il savait que c'était pas pour lui. Parce que tuer quelqu'un pour soi, pourquoi? Pour lui prendre son argent? Non. Mais par exemple, il aurait pu, il veut que tout le monde le congratule, il veut que tout le monde dise « Ah, c'est super », il est jaloux. Mais non, il n'a pas fait ça pour lui. Qu'est-ce que vous en pensez?
Tout à fait, il a été totalement pur dans son acte. Est-ce que nous arrivons à cela? Aujourd'hui, je vous dis franchement, j'ai du mal à croire, parce que ça demande un très très haut niveau spirituel, de faire quelque chose de totalement désintéressé, sans le moindre calcul. C'est quelque chose qui nécessite un très très haut niveau spirituel. Je pense pas que nous avons pu avoir la prétention, chacun d'entre nous, d'avoir cette dimension-là. Mais encore une fois, on peut effectivement, par contre, faire des actes pour la sanctification du divin, des actes de où on montre notre attachement à nos valeurs, en essayant de donner envie à d'autres de nous rejoindre.
Très beau sujet pour notre table de Shabbat de ce soir. Okay. Est-ce qu'on arrive des fois à vraiment, je te promets, je l'ai pas fait, j'ai fait pour toi, tiens, par exemple. Oui, est-ce que c'est possible? Avgué, je vous remercie. Bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, merci à vous.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Je vous retrouve à 18h pour un journal qui est enregistré. Et c'est à mon tour de vous dire à toutes et à toutes Shabbat Shalom. Shalom loy boy na boy ma shem loy ishmari shav shokat shoy bay ma shem loy ne bayis shalom loy boy na boy ma shem loy ishmari shav shokat shoy bay